L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly.
Luxan se souvient de l'horreur engendrée par sa malédiction. De la douleur lorsque le nécromancien Samoth lui a arraché le cœur remplacé aussitôt par celui d'un loup sauvage, lui volant ainsi sa vie et le réduisant en esclavage. De la terreur survenue lors de la transformation de son corps d'être humain en monstre sanguinaire. Du dégoût résultant du massacre d'innocents et du plaisir ressenti en les éviscérant. Sa vengeance, nourrie par les années où son esprit s'est perdu dans les limbes de l'oubli, n'en sera que plus terrible. De leur côté, les forces du mal, par l'entremise de leur fidèle et dévoué serviteur Samoth, essaient de convaincre le roi du Nord d'entrer en guerre contre la Darantasie, en avançant comme argument le meurtre du prince Rhaenyra par les hommes de l'empereur. Après les débâcles, des chanceux Florestan, aidés de quelques fidèles, tentent désespérément d'échapper à la Légion Chaos, lancée à sa poursuite. Enfin, Calis, l'apprenti, doit se soumettre aux épreuves qu'il veut s'il veut devenir un mystique. Mais pour parvenir à posséder ses pouvoirs, la mort reste sa plus proche compagne. Je viens de vous lire la quatrième de couverture de « La vengeance de la bête », deuxième tome d'une saga passionnante, « Les chroniques de Luxan ». Son auteur est aujourd'hui dans Aéropage pour nous emmener en Uchronie. Bonjour Éric Carouat.
Bonjour Nathalie.
Troisième fois que nous nous rencontrons, Éric.
Oui.
Toujours avec beaucoup de plaisir.
Oui, hein, plaisir voilà, à
c'est
partager.
C'est une amitié littéraire qui se transforme aussi en amitié. La dernière fois, il y a votre compagne avec vous.
Oui, hein enfin, c'est
on,
vrai.
On lui fait un signe à Chantal. La première fois, c'était pour La Patrouille,
oui.
Qui était une uchronie, mais alors très dans l'historique.
Oui.
Et puis la dernière fois, c'était pour le premier de ces chroniques de Luxan, qui était L'éveil de la bête. Nous sommes en fin d'année, donc une dizaine de mois depuis qu'on s'est vus. Qu'est-ce qui s'est passé littérairement, on va
littérairement.
Dire.
Littérairement, parce qu'il y a eu beaucoup de choses.
C'est ceux qui ne vous voient pas, vous avez perdu quelques kilos quand même.
Oui, bon. c'est vrai.
Donc on va s'en tenir au littéraire, Éric.
Oui, ben, le troisième opus, La rédemption de la bête, est en cours d'écriture. Il est déjà, on va dire, à 50%. Et il va clôturer magistralement, je l'espère, à la saga. Et j'ai d'autres projets aussi en cours d'écriture. J'en ai deux autres qui sont en tête, notamment la suite de La Patrouille, qui sera quand même, qui va se rapprocher au niveau de l'histoire, puisque ça va partir de l'évasion de l'île d'Elbe par Napoléon. Et on va retrouver le personnage principal, pour ceux qui ont lu La Patrouille. Et j'ai un autre projet d'écriture.
De partir un petit peu, de vous éloigner un petit peu de la fantaisie ?
Bah, m'éloigner, non.
La fantaisie, je veux dire, comme ça, avec les démons, les... parce que bon, Marc, dans La Patrouille, il y a aussi des démons, mais qui ne se...
Non,
pas la même forme que ces démons-là.
C'est pas forcément des démons, non, ouais. Non. Je m'éloigne pas forcément de la fantaisie. J'écris de la science-fiction, du fantastique, de la fantaisie, bien sûr, et je reste dans ces trois genres-là, parce que ben, j'aime bien écrire. J'aime bien écrire autant pour la lecture, je lis de tout, mais pour l'écriture, vu le temps qui est passé, puisque pour accoucher d'un livre comme ça, c'est 9 mois. On est obligé d'écrire sur les sujets qui vous passionnent.
9 mois intensifs. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé de la façon dont vous étiez comme écrivain, dont vous travaillez. C'est-à-dire que vous travaillez régulièrement, c'est-à-dire que vous dites, voilà, 2 heures par jour, je vais écrire, ou j'écris pendant 15 jours, et puis... Je fais une pause. Est-ce que vous relisez beaucoup, par exemple ? Est-ce que vous retravaillez beaucoup vos textes ?
Alors, il n'y a pas de règles fixes. J'écris tous les jours, oui, quand je suis en phase d'écriture, bien entendu. J'aime bien peaufiner mes chapitres. C'est-à-dire que quand j'ai terminé mon chapitre, je le retravaille jusqu'à ce qui me convienne complètement. Et après, je l'envoie aussi à la correction finale. Mmh. Et je le retravaille une autre fois. Et tout en continuant. C'est-à-dire que je peux retravailler un chapitre tout en écrivant un autre.
Voilà. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais quand on va parler du livre, on en reparlera. Mais je trouve qu'il y a encore plus dans celui-là. On voit que vous avez encore plus travaillé le côté page-turner. C'est-à-dire que vraiment, il y a un chapitre. Et puis, en plus, c'est bien parce qu'il y a plein de gens dans tout ce, dans ce pays imaginaire. Il y a plein d'actions différentes qui se situent dans le pays. Donc, on peut vraiment tout à fait s'attacher à des personnages. Et puis, les autres arrivent. Et puis, on retrouve les personnages, qui fait qu'on a toujours envie d'avancer, d'avancer vite. Il y a des fois, quand vous écrivez comme ça, vous dites, tiens, je tiens quelque chose là. Et je ne mange pas, je finis, je suis là.
Souvent, je me laisse emporter par mon élan. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages et c'est pour ça que j'ai cette technique-là, c'est-à-dire qu'il faut revenir sur les chapitres précédents. Ça m'est arrivé parfois, surtout pour l'éveil de la bête, d'inverser certains chapitres parce que ça nuisait au rythme. Et c'est vrai qu'on le relit tout le temps. Mmh. On le relit tout le temps parce qu'il y a beaucoup de personnages et à un moment donné, ça m'est arrivé dans La Vengeance de la Bête d'oublier un personnage. Ça, c'est le plus terrible. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui disparaît et vous ne savez pas pourquoi. Et à un moment donné, quand vous faites vos relectures, vous dites « Mais où est-ce qu'il est passé ?» Même si c'est un personnage secondaire. Donc, parce que j'ouvre beaucoup de portes.
Et en plus, vous dédoublez le problème, puisque bon, par exemple, le fils de la bête, le jeune prince, a deux noms.
Et oui. Et oui. Voilà. Et oui. Mais ils en ont beaucoup.
Il y en a beaucoup.
L'empereur, le devin, je veux dire, il y a pas mal de personnages qui ont plusieurs noms, mais c'est pour la logique de l'histoire, on va dire. Voilà. Et pour ne pas dévoiler un maximum d'informations trop vite.
Même si on se retrouve depuis trois fois dans l'émission, je vais quand même un petit peu vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore. Donc, je vous rappelle que vous êtes né à Toulon et que vous êtes un ancien cadre commercial.
Oui.
On va s'arrêter là pour la bio, mais quand est-ce que vous avez commencé à écrire, Éric Carouat ?
2021. Non, je dis des bêtises. 2020, puisque mon premier est sorti en 2021. 2020. Voilà.
Donc, après votre vie de labeur, vous n'avez jamais écrit pendant que vous travailliez ?
Non, je n'avais pas le temps.
Pas le temps ?
Non, je n'avais pas le temps. Je lisais déjà, c'était pas mal. Je ne suis pas un homme de la télé, donc je lis beaucoup. Et tout naturellement, à un moment donné, quand vous lisez des histoires, il y a des pans d'idées qui vous agressent le cerveau. Et à un moment donné, vous avez envie de les coucher sur papier. Et c'est ce qui s'est passé avec cette trilogie que j'avais dans la tête depuis un petit instant. C'est-à-dire que j'avais les 1000 pages dans la tête.
Quand vous travaillez, vous vous disiez, ça je sais que quand je vais être à la retraite, je vais le faire. Ça, je vais le faire. Ça, oui,
c'est
une priorité.
C'est une priorité, oui. Bon, y en a à la retraite qui se retrouvent à aimer la pêche, la chasse,
ou
la radio, par exemple. Il y a plein de passions, et je trouve que c'est sympa. Et moi, ça a été vital que je me lance dans l'écriture. J'avais quelque chose à dire, voilà.
C'est né quand même avant, et puis ça a été couché sur le papier quand vous aviez le temps.
C'est pas... je me suis pas réveillé un matin en disant, tiens, je vais faire ça. Non. C'est quelque chose qui vous prend petit à petit, comme un virus en fait. Et puis, à pas lent, il s'installe dans votre tête et pour plus vous lâcher. Et quand vous commencez à jeter vos premières lignes sur votre ordinateur, vous êtes phagocyté par votre histoire, par vos personnages, c'est hallucinant. Et puis même l'histoire vous aide.
Mmh. Voilà. Dans votre bio, vous dites que vous avez une enfance bercée par la littérature, mais surtout que vous êtes tombé dans la science-fiction depuis votre plus tendre enfance. Alors moi, ça me fascine parce que je ne sais pas quels auteurs de science-fiction peuvent être conseillés justement aux plus jeunes. Parce que bon, tendre enfance, vous ne lisiez pas Asimov quand vous aviez 5 ans.
Non, du tout. Alors là, Asimov, on est vraiment en science-fiction. Il y a un mix d'aventures style Les Aventuriers de l'Arche Perdue et de la fantasy. Donc, de la littérature fantasy, ça existe depuis les années 80. Mm-hmm. Terry Brooks, quand il a écrit L'épée de Shannara, qui s'appelait d'ailleurs Le glaive de Shannara au départ, moi je me rappelle, j'étais à l'armée, c'était en 1980, et j'ai découvert la fantasy, j'avais 18 ans donc.
Moi, je me rappelle de toute cette petite collection, vous savez, le Chevalier du Roi, là, qui est un truc qui fait 18 volumes ou 20 volumes, vous voyez ce que c'est ?
Ouais, après, il y a eu.
C'est une femme d'ailleurs qui écrit ça.
Les Chevaliers d'Émeraude ?
Alors, il y avait le Chevalier d'Émeraude, mais un autre truc, dans cette petite collection un peu argentée, là, il y en a plein. Bon, il y a Jordan avec La Roue du Temps.
Qui a été terminée d'ailleurs, maintenant.
C'est un autre, vous connaissez que ça, hein, c'est Le Truc du Roi, pas Le Chevalier du Roi. Mais enfin, moi, j'ai commencé à vendre ça en librairie dans les années 90. Ouais. Et les premiers tomes qu'on mettait, il y avait peu d'amateurs.
Oui.
Je dirais qu'il y a aussi des jeunes qui sont passés à cette littérature-là et qui ont été biberonnés à Harry Potter.
Oui.
Et qui sont passés ça directement. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait la science-fiction pure, on parle d'Asimov. En France, il y avait Andrevon. Enfin bon, voilà, il y avait... Mais la fantasy... on a à peu près le même âge, Eric. Je ne sais pas si vous êtes un peu plus jeune que moi, mais moi, je me rappelle que pour moi, la fantasy, c'était l'héroïque fantasy avec Conan le Barbare.
Oui.
hein, ouais, avec Schwarzy. Et il y avait une émission qui était animée par, je ne me rappelle plus qui sur la télé, qui parlait d'Heroic Fantasy.
Ouais.
Mais c'était spécial, quoi. C'était vraiment un univers. C'était Flash Gordon, enfin voilà.
Ouais.
C'était pas ça.
Disons que on parlait d'Harry Potter tout à l'heure, là. Il a vraiment elle a vraiment, plutôt, par rapport à ses livres, démocratisé, parce qu'il y a du fantastique et de la fantasy, parce qu'il y a des créatures imaginaires. Elle a réussi à regrouper les genres et à passionner les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de moi, quand je vois, quand je fais des salons du livre, quand je demande ce qu'ils ont vu ou lu, Harry Potter arrive toujours en première position. Et donc ça a démocratisé le genre, la niche qui était une niche ne l'est plus autant que cela. On part du Moyen-Âge, puisque quand on parle roi, quand on parle Conan, on est toujours dans une comment dirais-je, configuration moyenâgeuse à laquelle on rajoute de la magie, à laquelle on rajoute des créatures non humaines, et petit à petit, ça s'est démocratisé.
Je pense à Willow aussi.
Ouais, oui, Willow. Voilà, Willow est un...
Ouais. C'était presque plus cinématographique. D'ailleurs, c'est marrant qu'on parle de ça, parce que ça me fait penser que depuis 80-90, le milieu éditorial et ce qui vend a beaucoup changé. Il y a l'arrivée du manga, ça c'est sûr que moi j'ai connu des mangas avec trois livres. Voilà. Il y a l'arrivée de l'heroic fantasy, et le plus récent, c'est l'arrivée de la new romance.
Oui.
Et alors, c'est marrant parce que vous êtes un des seuls mecs à faire des salons où c'est... Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivent justement à mi-chemin de la fantasy et de la new romance.
Oui.
Je pense notamment au salon du livre de Vandargue qui est vraiment où il y a une cinquantaine d'autrices. Il y a un mec des fois qui est perdu là-dedans.
C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai pour l'avoir visité. Hein, pas... Pour l'avoir visité, c'est vrai. C'est vrai.
Vous avez lu certains trucs de cette ligne éditoriale-là?
Oui, c'est pas trop ma passion.
Il y a plus de romance ou plus d'heroic fantasy?
Tout est basé sur la romance.
Oui, voilà.
Alors ensuite, on peut faire. Il y a des déclinaisons parce que c'est comme dans la fantasy. Hein, vous avez la dark fantasy, la light fantasy, l'heroic fantasy. Et pour la new romance, c'est pareil. Donc vous avez du bitlit où vous avez des vampires et des créatures avec des loups-garous. Et il y a toujours des romances un petit peu particulières. C'est assez non conventionnel. Mais bon, c'est toujours basé sur la romance au départ.
Expérience sympa, par contre, dans les salons, on m'avait dit, c'était les... J'avais pas prévu de parler de ça, mais bon, c'est une discussion informelle, Eric.
Oui. Donc,
c'est les salons de cosplay, un peu.
Ah, moi, j'adore.
Ça, c'est sympa.
Depuis que j'ai découvert ça, avec les TGS événements, je suis allé à celui de Montpellier, je vais faire celui de Toulouse. Toulouse, c'est quand même 76 000 visiteurs du week-end. Et on est totalement déguisés. Et voilà, je me retrouve en enfance, je retombe en enfance. Et il y a énormément de monde, énormément de jeunes. J'ai toujours le sourire dans ces endroits-là, parce que je m'aperçois que y a beaucoup de jeunes qui se remettent à lire, qui ont des connaissances littéraires dans mon genre, on est bien d'accord, puisqu'un TGS, c'est du fantastique et de la fantasy. Vous avez au milieu un village du livre, et vous avez des enfants, des adolescents qui viennent, qui disent « Oui, moi j'ai lu ça, je vous connais, je me rappelle, ça c'était sympa. » Et puis on échange avec des enfants, voilà quoi.
Il y a, on parlait que le premier livre c'était la Patrouille, donc qui était une science-fiction qui se passait donc 45, les derniers mois de
décembre 44, voilà, sur 3 jours.
Hein, voilà, sur 3 jours, et qui était très plongé dans l'histoire, parce qu'on passait, je dirais que 80% du livre, on était dans l'historique, et tout d'un coup, les dernières pages, ça bascule.
C'est ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire qu'on part de faits réels, les faits ont existé, ces gens-là, même si jamais ils sont pas nommément existants. Il y a eu des patrouilles qui ont été, espionner le camp allemand, mandaté par l'état-major. Et après, à un moment donné, c'est vrai que ça bascule. C'est-à-dire qu'on part de faits réels et puis je l'adapte à ma convenance. Et je ne peux pas être pris en défaut, par exemple, puisque sur la patrouille, on ne peut pas me dire que ça n'a pas existé. Voilà.
Bien sûr. Et c'était un hommage, à chaque fois on en parle, mais à votre papa, qui était féru d'histoire et qui adorait ça.
Oui.
Dernière question avant de marquer notre première pause musicale, Eric Carvoit. Une question peut-être un peu plus, c'est pas intime, c'est assez cauchemardesque.
Oui.
Est-ce que vous faites des cauchemars? Et qu'après, quand vous réveillez, vous les écrivez, vos cauchemars?
Non, du tout, du tout. Ça m'est arrivé surtout au début de l'écriture, d'avoir un songe, un rêve, comme vous voulez, et de me lever, de l'écrire. Oui, ça m'est arrivé. Alors après, moi, c'est vrai que j'aime bien les univers sombres. J'aime pas quand c'est lisse. Dans mes histoires, personne n'est vraiment tout blanc, personne n'est vraiment tout noir. C'est la nature humaine, ou la nature des créatures, puisqu'il y en a pas mal.
Et on va en parler en deuxième partie d'émission, parce que justement, quand on parle de cette lutte entre le bien et le bien n'est pas tout à fait bien, et le mal a des fois des raisons d'être devenu le mal. On fait une première pause avec « Vous avez choisi pour nous, si je manquais de ta peau » de Pascal Obispo. Vous nous dites après pourquoi ?
C'est chaque seconde que je t'aime, chaque minute que je retarde, ou que tes rêves t'emmènent. Tu es bien là, je te regarde. C'est chaque instant que je savoure, chaque image que je grave au mieux. Et avant qu'il ne fasse jour, je ne te quitte pas des yeux. Si je manquais de ta peau contre la mienne, contre la mienne, si je manquais. Très fin à mes nuits. C'est chaque soupir que je respire, chaque contour que j'apprends par cœur. Je n'ai que toi à retenir, y'a que demain qui me fait peur. Ces rencontres même brèves, ces aventures qui ne comptent pas. Avant que le jour ne se lève, moi je te garde encore pour moi. Si je manquais de ta peau contre la mienne, contre la mienne.
Et vous êtes toujours dans Aéropage avec Eric Carouat pour La Vengeance de la Bête. Eric, on vient d'écouter cette belle chanson de Pascal Obispo. Pourquoi ce choix ?
Disons qu'au départ, j'ai pu choisir des musiques en adéquation avec mes livres, notamment au niveau de La Patrouille. Trouver des musiques
qui s'adaptait au
qui texte. S'adapte à, mes, à mon texte, ça devient un petit peu compliqué. Donc j'ai choisi de changer de registre. On parlait de romance tout à l'heure avant d'écouter ce morceau-là. C'était pour faire un clin d'œil à une personne. J'ai choisi ce texte-là pour lui rendre hommage.
Super. Ouais. C'est une belle chanson en tout cas. C'est marrant parce que en même temps que je lisais votre texte, j'avais en tête une musique et c'est un truc qui a plus de 5 ans parce que je me rappelle voir le clip et c'est une musique et je ne sais pas ce que c'est. Alors je me suis même installé Shazam. Je chantonnais devant Shazam pour essayer de retrouver le titre, mais dès que je le retrouve, je vous l'envoie parce que ça va très bien avec, avec La Vengeance de la Bête, cette musique.
Il y a beaucoup, excusez-moi de te couper Nathalie, il y a beaucoup de chansons fantasy. En fait, ce sont des musiques lyriques sans paroles.
Ouais.
Moi, ce que je voulais à Aréopage, c'est notamment de trouver des chansons
mais c'est
qui
bien
me plaisent.
C'est une partie de vous-même.
Et en français.
Voilà. Après, c'est vrai que pour beaucoup, ne serait-ce qu'on parle d'Excalibur, c'est les Carmina Burana. On ne va pas mettre à chaque fois les Carmina Burana, quand même. Donc, on va parler de La Vengeance de la Bête, qui est donc le deuxième volume tiré des chroniques de Luxan. Et là, ça vous emmène dans un univers de dark fantasy. C'est quoi la dark fantasy ?
Mon univers est très 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 sombre, c'est-à-dire qu'il y a la lutte du bien et du mal avec le monde des hommes, le monde des abysses, avec des créatures démoniaques qui s'affrontent en permanence. Il y a un petit équilibre qui essaie de s'instaurer. Et dans mon histoire, justement, il y a des personnages qui veulent briser cet équilibre. Et dont je ne révélerai pas.
Non, il ne faut pas tout révéler. À un moment, on va s'arrêter. Non, mais c'est vrai qu'on va parler après d'un personnage que vous faites mourir d'un coup d'épée et vous remontez son corps comme ça. Je l'aimais bien, ce personnage. Donc,
et oui.
Voilà. Merci, Eric, de faire mourir les personnages que j'aime bien. On peut peut-être, pour les auditeurs, rappeler ce qui se passe un petit peu dans le premier volume, dans L'éveil de la bête.
Alors, c'est une histoire que je qualifierais de cent ans mort. C'est-à-dire que dans le prologue, vous avez une créature qui s'appelle Luxan, qui est un loup. Mais qui n'a pas toujours été un loup, on l'apprend par la suite, et à un moment donné, qui retrouve la mémoire. Il retrouve la mémoire alors que ses autres compagnons, puisqu'ils sont une vingtaine, ne la retrouvent pas. Mais il y a une raison à laquelle je ne ferai pas référence à l'antenne. Et donc, il retrouve la mémoire par bribes, et il se rappelle de sa condition d'être humain petit à petit. Donc, par rapport à ses capacités, et puis cette possibilité de raisonner, il va échafauder un plan pour s'évader et se venger. Donc voilà la trame du livre.
Ça, c'est l'histoire de Luxan.
Ça, c'est l'histoire de Luxan.
Et puis, il y a plein d'histoires autour de Luxan, notamment dans ce pays. Donc, vous nous faites une carte dès la première page du livre, donc de la Darantasie, où il y a des villes qui sont pauvres, des villes qui sont riches, il y a des forêts, il y a des étangs, des étangs,
c'est des marais glauques.
Des marais glauques, voilà.
Avec des créatures particulières.
Il y a la mer, parce que c'est...
Oui, la mer de brume.
C'est un pays qui est... Il n'y a jamais d'idée de savoir c'est grand comment. Ça pourrait être grand comment.
Volontairement, j'ai donné qu'une partie de mon monde, parce que même si la trilogie... et sera terminé donc avec la rédemption de la bête, cet univers-là est toujours vivant. Donc je me réserve le droit de pouvoir y revenir.
Oui, parce qu'il y a des fois les personnages, pour une distance, en définitive, c'est jamais en kilomètres, c'est plutôt en temps. C'est-à-dire qu'ils vont mettre une journée, une heure, trois jours pour rejoindre. Ouais. Et en plus, en fonction de la saison, si on traverse les forêts au printemps ou en automne ou l'hiver quand la bise... On sent quand même que c'est un pays, pour moi, je le situe dans le nord, c'est un pays froid quand même.
Alors la Darantasie, pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a un chapitre qui concerne donc les hommes du nord. Alors là, bien sûr, les hommes du nord, les vikings, etc. etc. Donc on l'associe facilement avec le froid. Et donc c'est vrai qu'il y a une incursion dans ce monde-là, qui n'est pas forcément sur la carte, mais éventuellement, je me réserve le droit de revenir dessus dans quelques années.
D'agrandir la carte.
Voilà, dans quelques années.
Et puis, donc, dans tous ces personnages qu'il y a autour, il y a un chasseur de primes.
Oui.
Qui est déjà quasiment, à part ceux qui sont morts à la fin de... Le premier tome se finit par une bataille dantesque entre, justement, les forces du bien et du mal. Puisque, on comprend quand même... On le comprend déjà dans le premier que le devin, c'est le frère de Luxan.
Oui.
Voilà. Donc,
à la fin.
Il a un frère qui, on va le faire court, c'est le prince noir. C'est Jean Santerre.
Oui, mais c'est toujours pareil. À la fin de la vengeance de la bête, tu apprends un certain nombre de choses.
Et voilà.
Tu te dis, il
c'est
a,
peut-être pas si simple.
On a tous, comment dirais-je, une raison d'agir comme on le fait. Alors, elle est bonne, elle est mauvaise, mais elle est valable pour celui.
C'est ce qu'il y a. Ouais. Alors, c'est une belle référence, mais ce qu'on comprend très bien dans Star Wars, hein, Dark Vador.
Absolument.
N'a pas toujours été Dark Vador.
Absolument. Absolument. Absolument.
C'est ça qui est formidable d'ailleurs parce que
il se passe un événement pour comment l'empereur arrive à convaincre Dark Vador. On le voit parce que sa femme est morte, les enfants, enfin l'empereur le manipule et l'entraîne du côté obscur.
Et quand on voit Anakin alors dans le premier du deuxième, hein, parce qu'il y a les trois premiers et puis il y a les trois d'après, enfin après il y en a même plus.
Ouais.
Mais moi je me rappelle très bien du quatrième quoi, hein, qui et où on voit la naissance, l'enfance d'Anakin.
Oui. La menace fantôme.
Voilà. Où il y a Dark Maul et tout ça. Voilà. Oui. Je m'en souviens bien, moi je suis une fan de Star Wars, vous voyez. Hein. Et bon, revenons à la vengeance de la bête. Donc, dans ces personnages-là, donc, il y a Luxan, son frère ennemi, hein, et puis il y a Samoth.
Qui... un anagramme de Thomas.
Qui est un personnage, c'est un nécromancien.
Oui, absolument.
Donc c'est un magicien.
Oui, un magicien noir.
Noir. Et comme il y a le bon frère et le mauvais frère, d'une façon tout à fait caricaturale, hein, je pense que tout le monde l'a compris, que rien n'est aussi simple dans le bon et le mauvais.
Absolument.
Il y a aussi le mauvais sorcier, donc Samoth, et le bon sorcier, qui lui aussi...
Bon magicien, oui.
Bon magicien, qui est un merlin... plein de pouvoir, qui est un mystique, mais qui lui non plus n'est pas simple.
Non, mes personnages sont pas simples, ça je l'avoue. Ils sont tous torturés même.
Je dirais qu'il y a, ces quatre-là qui sont du côté roi et du côté religion, c'est pas religion, mais enfin voilà. Et puis tous ces quatre héros-là ont tous des enfants ou des aides ou des apprentis qui sont là derrière eux.
Oui, absolument.
Hein,
absolument.
Avec cette naissance. Alors moi, parce que maintenant j'ai eu la chance d'en avoir lu deux. Ce que je trouve, c'est que dans le deuxième, parce que là on parle du deuxième, il y a plein de personnages qui ont pris corps, quoi, qui se sont installés. Disons que le premier volume, vous installez justement tout.
Voilà. Mais quand il y a un univers comme ça, c'est quand même relativement complexe. Et on est obligé à un moment donné de poser un certain nombre de bases, un certain nombre de règles qu'il ne faudra pas transgresser par la suite pour que le lecteur soit emporté avec moi.
Et du coup, histoire. Le deuxième a encore plus de rythme, c'est ça que je voulais vous dire.
Oui, parce que justement, tout est posé, donc il n'y a plus de raison de s'attarder à certains détails, donc place à l'action, place au personnage.
Il y a un seul chapitre, dont on peut parler maintenant d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout du livre, parce que ça serait d'effleurer trop de choses, mais il y a un chapitre où tout d'un coup, vous prenez votre temps, je trouve, où le temps s'arrête, c'est quand le mystique... amène Kallis, qui est son apprenti, pour devenir mystique, sachant que tous ceux qui s'y sont collés avant
sont morts. Oui.
Donc Kallis y va, mais bon, pas franchement rassuré, mais quand faut y aller, on va dire. Hein,
voilà. Disons que la préparation aux épreuves, puisque c'est de ça que tu parles, se fait dans un endroit particulier, où le temps et l'espace n'ont plus lieu d'être, et où il va se retrouver... dans une sorte de léthargie et de bien-être pour pouvoir le préparer à ce moment-là.
Mais c'est la force de ce chapitre, Eric, parce que justement, depuis le début, c'est une cavalcade. En plus, c'est une cavalcade, puisqu'il y a l'armée du devin, du mauvais frère, suit les derniers, les chanceux, qui sont les gens qui, dès le début, ont été en opposition avec lui.
Oui, et c'est surtout parce qu'il
Il vient d'en tuer pas mal.
Et c'est surtout qu'il veut chasser le fils de Luxan, qui est le prétendant légitime au trône. Et il faut le capturer.
Voilà, il faut capturer. Voilà. Lui est dans cette espèce d'équipage de gens sympas. Il y a la cuisinière, machin. Enfin voilà, c'est une petite vie. Il en tue beaucoup, mais une partie réussit à se réfugier dans la forêt des chênes noirs. Et donc là, tout commence à changer. Et ils se reséparent d'ailleurs tous. Et donc cette scène, c'est ça que je voulais vous dire, que je commençais à dire, c'est que le bouquin est une course, on s'ennuie pas, on avait rien, et tout d'un coup, l'intronisation, enfin je sais pas le, comment on peut pas l'intronisation, mais
si ça peut être le préambule aux épreuves, c'est-à-dire qu'à un moment donné le temps s'arrête et ce chapitre là est posé parce que c'est un des plus importants et quand il va se retrouver, qu'il va passer donc la porte pour pouvoir se retrouver à l'intérieur de cette grotte, il va être confronté aux éléments qui vont le mettre à l'épreuve et là il se retrouve tout seul avec ses doutes, ses démons et à répondre à des questions, à passer des épreuves, dont je tairai volontairement à l'antenne les tenants et les aboutissants. Et il est vraiment très très particulier, j'essaie de le soigner du mieux que j'ai pu, pour essayer de faire ressentir
C'est une réussite.
Les émotions.
Parce que c'est une pause, et en plus c'est une pause qui arrive dans le dernier tiers du roman, donc c'est une pause qui permet aussi de repartir après avec force, parce que... autant le premier roman, L'éveil de la bête, était où tout était placé, ou le deuxième.
Beaucoup de flashbacks dans L'éveil de la bête pour aider à mieux situer le royaume, le terrain.
Là, vous nous emmenez à la fin de La Vengeance dans un côté paroxysmique, c'est-à-dire que là, on attend vraiment, on sent que tous les éléments sont placés maintenant. Donc le mystique a maintenant un deuxième mystique. Samoth a un deuxième nécromancien, qui en plus, on ne s'y attend pas.
Oui.
Enfin, Luxan sent les choses.
Oui,
quand même, hein, voilà.
Il y a quand même dans le premier, il y a un certain nombre de choses.
Des petits éléments.
Oui, des petits éléments qui peuvent orienter le lecteur. On ne peut pas être totalement surpris.
D'ailleurs, le lecteur, faites bien attention, parce que dans les livres d'Éric Carouat, vous avez toujours plein d'indices. Ne pensez pas que les choses arrivent comme ça. C'est-à-dire que, généralement, avant qu'un fait se passe, aussi cruel... Il y a plein de petits indices qui doivent éveiller l'intérêt du lecteur, je trouve. C'est ça qui est formidablement réussi. Oui, alors le personnage que je ne vous pardonne pas d'avoir tué, vous voyez qui c'est ?
Oui, Galant.
Voilà. Là, ça, je ne vous pardonne pas. D'une manière très sauvage, parce que les assassinats sont très sauvages, notamment quand l'armée de l'empereur arrive derrière les chanceux et que Luxan intervient. Comme une bise, vous dites une bise coupante. Quoi.
Ouais.
Les scènes d'éviscération, vous y allez. Hein.
Oui. Ce sont des loups, ce sont des monstres. Donc, à un moment donné, ils ont des capacités surhumaines. Et puis, quand ils sont confrontés à de simples mortels, ça fait.
Enfin, je parle de Galant, il y en a un autre qui meurt, hein, c'est Nédor à la fin, que j'aime beaucoup.
Qui ?
Garce.
Ah oui. Oui.
Quand vous faites mourir comme ça, un héros en plus attachant,
oui.
Un héros positif,
et oui.
Il n'y en a pas des masses. C'est une sacrée responsabilité de le faire mourir.
Oui. Alors c'est assez curieux parce que justement, comment Garce est tué ? C'est justement ce qui est important puisque.
Ça, il ne faut pas le dire surtout.
Surtout pas. Mais. Comment dirais-je, de la manière dont il est tué, surtout par qui il est tué, puisque on peut être que trahi que par des amis, hein, et c'est assez, assez particulier, et puis ça découle d'un certain nombre de choses après qui vont arriver. Et on ne peut pas mettre les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, mm-hmm. En disant les bons vont tous s'en sortir et les mauvais vont tous mourir. Puisque de toute façon, la frontière entre le bien et le mal est vraiment, vraiment, vraiment fine.
On n'est pas dans oui-oui, non.
Voilà, ou bisounours. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que moi, j'aime bien jouer avec les émotions de mes personnages et leur évolution, puisqu'on les prend au début de l'éveil de la bête, et ils vont évoluer. On parlait du chasseur de primes, qui est vraiment, lui, au départ, qui a que l'argent qui l'intéresse. Oui, Kenorak, et qui, à un moment donné, se retrouve avec le prince, à s'échapper avec lui, et qui a des doutes sur ce qu'il doit faire ou pas.
D'ailleurs, il l'explique, puisqu'il explique très bien que... oui, il a trahi, oui, c'est pas un bon depuis le début, mais il le dit au prince, je me suis attaché à vous, je me suis attaché à Mira, je me suis attaché...
Bien sûr,
et que, qu'aujourd'hui, rien n'est simple.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, on pourrait dire que c'est une parabole de ce qui est en train de se passer en ce moment, tout ça.
Oui, il a été écrit avant. Hein.
Et puis, il y a l'arrivée de ce peuple du froid. Vous pouvez nous en parler un peu, des Loris ?
Oh, oui, des Loïrs.
Loïrs,
pardon. Des Loïrs. Et c'est vrai que c'est un peuple du Nord qui ont toujours voulu se venger par le passé du fait qu'ils avaient été chassés de la Darantasie. Et ils ont toujours voulu envahir ce pays-là pour les réduire en esclavage et piller leurs ressources, puisque dans le froid, il n'y a pas, c'est assez compliqué pour eux de survivre avec les conditions climatiques et leur environnement. Et donc ils veulent se venger et envahir la Darantasie, et ils vont être aidés par le Seigneur Noir qui lui a d'autres desseins.
Voilà, c'est ça, c'est qu'en définitive, on s'aperçoit à la fin du livre que Samoth manipule tout le monde.
Ah oui, absolument.
Et d'ailleurs, absolument. Et c'est ce qui ouvre aussi, et qui mène voilà, vers ce côté paroxysmique, c'est que tout d'un coup, on comprend qu'il va y avoir un autre univers que vous évoquez.
Oui.
Et là, on va y aller.
Ah oui, oui, absolument.
Donc là, dans les abysses, oui. Dans ce maître des abysses. Quand définitive, moi, j'ai toujours cru que Samoth, c'était... lui, le manipulateur de tout. Or, on s'aperçoit que lui-même a un maître.
Oui, absolument, absolument.
Quand est-ce qu'il est né, ce maître dans
De suite, dans l'éveil de la bête, dans les premiers chapitres, il est présent. Même si c'est de manière ésotérique, il est quand même présent, puisque c'est. On parlait de religion tout à l'heure, donc c'est pas vraiment une religion, mais c'est un maître tout puissant et dont je tairai volontairement aussi ça. Bien qu'à la fin de la vengeance de la bête, on sait qui il est. Mmh. Et toujours pareil, même dans les abysses, il y a un combat entre le mal et un autre mal, voilà, qui s'affrontent.
Le personnage de Luxan, d'ailleurs, il reconnaît les siens parce qu'on comprend que s'il a retrouvé, lui, la mémoire,
oui.
Il y a un autre pote à lui. Ils étaient 17 loups au début, ils sont plus que 14, 20 loups.
20, ouais.
Il y en a 3 qui meurent tout de suite, ouais. Il y en a 3 qui meurent après dans celui-là.
Ouais.
Dont un qui est Sven, qui est un monstre jaloux. Il faut juste peut-être redire ça, c'est que comment réexpliquer ça, parce que c'est vraiment important, on le dit dans la quatrième de couverture, hein. Mais donc ce roi avec ce frère,
oui.
La vengeance du frère, du mauvais frère, entre parenthèses, ça a été de lui enlever le cœur, et de remettre un cœur de loup qui lui a fait transformer en espèce de loup-garou.
Oui, oui, sauf... Voilà. Oui, oui.
Et cette expérience-là a été menée sur 20
oui.
démons,
oui.
Et ça, c'est Samoth qui l'a...
Alors non, ça a été, cette expérience-là a été menée sur des repris de justice, des moins que rien, des paysans, des gens qui étaient tout simplement contre le régime, et qui ont servi de cobayes. Et après, il l'a fait à son propre frère.
Et un autre qui est prince aussi, qui est prince de l'étranger.
On le sait à la fin.
Voilà, voilà.
On le sait
et,
à la fin.
Et donc, il se retrouve quand même.
Oui.
Et ces deux-là,
oui.
Justement... retrouve une mémoire que Samoth ne s'attendait pas à ce qu'il retrouve la mémoire.
Non, alors je ne sais pas si je dois le dire à l'antenne pourquoi eux ont retrouvé la mémoire et pas les autres, mais il y a une raison vraiment particulière.
Oui, oui.
Est-ce que je l'ai dit à l'antenne?
Non, parce que c'est voilà. La surprise aussi de lire le livre. Là.
Alors que les autres vont rester, en l'état sauvage et qu'ils se laissent uniquement guider par leur instinct. Et à un moment donné, quand Luxan, au départ, arrive à les faire tous évader, il y a une forme de hiérarchie qui est en train de s'installer où il y a un calife qui va être à la place de l'autre calife. Donc Sven est énormément jaloux de Luxan et va vouloir lui contester ce titre d'alpha en voulant le combattre.
Le mal alpha, voilà. Qui est un vrai terme hein, d'ailleurs. Hein,
oui, absolument. Absolument.
Avant de marquer notre deuxième pause musicale, une question sur une œuvre comme ça. Je pense que les auditeurs l'ont compris, là où voilà, c'est un pays imaginaire, une carte. Hein, voilà, faut vous mettre en tête, hein, chers auditeurs, que c'est une carte avec des lieux, avec énormément de personnages. Comment, sur le papier, dans la réalité, vous le concrétisez, ça? Vous avez dessiné vous-même la carte au début, avec les personnages. Parce que pour que ça arrive justement à ce paroxysme, il y a un travail de préparation énorme.
Au départ, oui, pour la création de l'univers, bien entendu. Après, non. Mais au départ, en fait, c'est l'histoire qui a déterminé, qui s'est enchaînée, qui a avancé et qui a déterminé à la fin la carte.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai bâti mon histoire et j'ai voulu la... Puisque la fantasy, il y a beaucoup de visuels. Puisque vous voyez qu'en début de chaque chapitre...
Oui, ça c'est super, oui, voilà, vous faites bien...
Il y a des illustrations, magnifiques d'ailleurs, et qui sont en adéquation avec le thème du chapitre.
Oui, oui, bien sûr. Et puis l'écriture aussi, des pages, tout, il y a plein de détails. Voilà, c'est le livre est un joli produit, sachant que c'est en auto-édition, Eric. Hein.
Oui.
Voilà. C'est entièrement vous qui le...
Mais oui, j'ai trois personnes qui travaillent avec moi. Donc, une personne qui me fait donc la couverture, une autre personne qui me fait les illustrations et la mise en page, et après une correctrice professionnelle. Il faut savoir quand même que même si je suis en auto-édition, je suis disponible partout.
Oui, mais bien sûr.
Dans les librairies, et dans Amazon, bien entendu.
Il suffit de le commander.
Exactement. Voilà. Vous avez un GenCode, il y a un ISBN, il peut être disponible partout.
On le dira juste avant de se quitter aussi, pour bien le rappeler. On va marquer une deuxième pause musicale avec « Les choses » de Jean-Jacques Goldman.
Oui.
Pourquoi ce titre ?
Parce que je trouve qu'on s'attache à des détails. Alors pour moi, ce sont certainement des détails, mais quand je vois un petit peu la société d'aujourd'hui dans laquelle on a tendance à nous précipiter avec les smartphones, avec toute la nouvelle technologie. On s'attache à des objets plutôt qu'à des êtres humains. Et puis finalement, on fait passer des objets beaucoup plus devant l'être humain. Donc ça me révolte, puisque moi je suis un enfant des années 80, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait rien du tout, et on passait notre vie à l'extérieur. Ça a été déjà raconté des milliers de fois.
Mais ça fait du bien de ne pas l'oublier complètement.
De ne pas l'oublier. Donc... non seulement vous avez les paroles, donc moi j'aime bien Jean-Jacques Goldman par rapport à ce type de vérité, et c'est vrai que ça me fait écho à l'âme. Voilà.
On écoute et on se retrouve pour parler actu.
Quelqu'un dans cette voie
êtes toujours sur Radio FM Plus dans Aéropage. Aéropage aujourd'hui que je partage avec Éric Carouat qui nous présente dans les chroniques de Luxan la vengeance de la bête, donc du pur dark fantasy.
Absolument. Voilà.
Avec des égorgements, des ongles, des griffures, des épées qui tranchent les gens qu'on aime en les montant au ciel. Voilà. Éric, je voudrais qu'on parle, il nous reste 5 minutes d'émission, il y a une actualité proche, c'est-à-dire pas ce week-end-là, mais le week-end d'après, à Clermont-Lérault.
Oui.
Puisque je fais un court rappel, mais donc fait partie d'un mouvement qui s'appelle les éphémériens, qui est oui. né pendant le Covid,
oui.
puisqu'on ne pouvait plus faire de salon du livre. Il y a les salons du livre éphémère qui sont nés sur Internet, et puis une véritable amitié, notamment avec Céline
Bourbon.
Et puis d'autres hein, qui sont dans l'aventure. Et puis, bah voilà, cette amitié, vous avez eu envie l'année dernière de la concrétiser avec un salon du livre. Je suis venue partager une journée avec vous et avec Arthur, qui était notre service civique de l'année dernière. Et puis vous avez remis ça cette année.
Oui.
Vous nous en parlez ?
Oui. Donc, le salon du livre de Clermont-Lérault, avec, en partenariat avec les éphémériens, aura lieu les 17, 18 et 19 novembre. Pourquoi 3 jours ? Parce que cette année, je fais intervenir les collèges en faisant un concours de nouvelles et de dessins. Donc, de la 6e à la 3e.
Ça aura lieu le vendredi ?
Donc, le vendredi, déjà lundi, ils vont me rendre les épreuves pour pouvoir être jugés, on va dire.
Mm-hmm.
Pas corrigés, mais jugés. Parce que je vais travailler, on va travailler sur le fond et pas sur la forme. Ce que j'ai demandé donc aux professeurs de français, parce que j'ai vu 4 professeurs de français et un professeur d'art plastique.
Ils ont tout de suite dit oui ?
Ils ont dit oui. Il y a eu un engouement sur ce projet. J'ai été très fier d'ailleurs. Je leur ai dit, pas forcément de les aider parce que c'est pas le but, mais de les assister de loin. Mmh. Parce que bien sûr qu'il y aura des fautes d'orthographe, bien sûr qu'il y aura des fautes de syntaxe, mais j'ai voulu surtout travailler sur l'imaginaire et leur donner un tronc commun, c'est-à-dire que j'écris à leur niveau une petite nouvelle, mais j'ai volontairement laissé la fin en l'état pour qu'ils puissent m'apporter leur propre conclusion. Donc, par niveau, donc 6e, 5e, 4e et 3e, il y aura des prix à gagner, 3 prix par niveau, qui seront remis le week-end. Bien sûr, ça sera des livres, hein. Mm-hmm. Ça ne sera pas des smartphones. Donc, il y aura pour eux, à leur niveau, des livres à gagner.
Et après, donc, le 18-19, le salon.
Le salon du livre.
Donc, les auteurs ne seront pas là le 17.
Alors, il y en aura certains, parce que quand ils vont venir le 17, les classes donc vont se partager la journée et il va y avoir des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers d'écriture à leur niveau, des ateliers de pliage, c'est-à-dire qu'on part sur un livre et on peut lui donner toutes les formes qu'on veut. Il y aura vraiment des ateliers qui sont totalement indépendants les uns des autres et sur des thèmes totalement différents. Bien sûr, qui touchent le livre de près, puisqu'il va y avoir de la lecture à voix haute, il va y avoir une histoire racontée par rapport à un objet. Il y a pas mal de... Donc, il va y avoir ces ateliers-là, mais bien sûr, il ne va pas y avoir les auteurs qui vont être tous présents, puisqu'on s'attache à respecter le collège et le niveau des enfants. Mm-hmm. Donc, je ne vois pas pourquoi on mettrait une certaine forme de littérature dont ils n'en ont rien à faire.
Donc, le salon aura lieu dans ce très bel...
Les Dominicains.
Voilà.
Oui.
Qui est un espace immense.
Oui, une église désacralisée qui a été rebâtie à neuf avec, vous retrouvez dans cette environnement avec les murs qui vous parlent. Tu le sais aussi mieux que moi, Nathalie, puisque tu y as été l'année dernière. Et je pense que pour faire ce genre d'événement, le lieu mythique que sont les Dominicains se prête vraiment à l'exercice.
Donc, pour les 2 minutes qui nous restent, il y aura toujours Chape au fond ?
Oui, dans la nef.
Dans la nef.
Oui, Chape
dans la nef. Quelques noms d'auteurs qui seront là, vous en avez dans la tête ?
Oui, je pense à Harmonia Lemaître, que tu connais bien. Il y aura Nani B, il y aura Elisabeth Guillot, il y aura tous les gens qui vont être Didier Lassina. Il y aura pas mal de gens.
Pascal Battistelli, je sais qu'elle
est là. Oui, elle est là. Oui, absolument. Voilà. Il y en a beaucoup que tu connais. Sophia Agapi, qui était là déjà l'année dernière. Il y en a.
Une quarantaine ?
Entre 40 et 45.
Voilà, après, il y a toujours des gens qui, au dernier moment, ne peuvent pas venir. Donc voilà, une quarantaine.
Oui.
À l'espace des Dominicains.
Oui.
Vous pourrez acheter les livres, discuter avec les auteurs,
vous les faire
dédicacer.
Oui.
Faire déjà dédicacer peut-être des idées cadeaux de Noël. Hein,
quand
même, ça s'approche.
Exactement.
Et donc, le 17, je redis bien le 17, mais surtout le 18-19, Montpellier, vous pouvez aller jusqu'à Clermont-Lérault.
Oui.
découvrir ce chouette salon.
Oui, c'est vraiment très 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 sympa, deuxième édition. Déjà, la première, on avait été vraiment satisfait du monde. Et puis voilà, on est dans l'imaginaire, dans le rêve, dans la romance. Et puis tout le monde peut y trouver chaussures à son pied.
Et quant au livre donc, de Éric Carouat, vous les trouvez déjà, Éric a une page Facebook, un site.
Oui.
Déjà, tout ça, vous pouvez le contacter comme ça. Et puis, aller voir votre libraire...
Préféré.
Hein, faites vivre les libraires, surtout que Clermont-Leroux, il y a une chouette librairie.
Oh oui, absolument. Hein,
absolument.
C'est vrai.
Et puis changez-moi cette photo pour la prochaine.
D'accord.
Hein,
voilà. Okay.
Il est beau en ce moment. À très bientôt, Éric Carouat.
Merci,
merci beaucoup. Merci.
Au revoir.
Au revoir. Et à bientôt.
L'émission littéraire de Nathalie Bouly pour FM+.